Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, eh bien, je laisserai de côté l'explication, le commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui, pour plutôt vous entretenir sur un point important, ce problème de la nouvelle messe. Si cette question paraît évidente à certains, eh bien, je l'ai pris de m'en excuser de devoir parler, car cela n'est pas évident pour tout le monde. Et il est de mon devoir d'en parler. J'ai peut-être manqué de le faire, pensant qu'avec toutes ces brochures, avec toutes les explications que nous avons eues de Monseigneur, des professeurs du séminaire, il me semblait que c'était suffisant, et cependant, il semble que non. Et c'est pourquoi je voudrais vous en parler aujourd'hui. Ce missel nouveau a été publié le 3 août 1969. Il a été présenté par un long texte que l'on appelle l'Institutio Generalis, dont la lecture frappa de stupeur les théologiens catholiques. À la suite de ça, un bref examen critique a été rédigé, a été signé par les cardinaux Ottaviani et Bacci, qui n'étaient pas les derniers venus. Ottaviani, qui était le préfet de la Congrégation de la foi, qui était un des postes les plus importants à Rome. Et il notait dans ce bref examen critique que cette nouvelle messe s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe. Et dans ce texte de l'Institutio Generalis, il y a, à l'article 7, une définition. Les novateurs, ceux qui ont fait cette nouvelle messe, ont précisé quelle est leur intention, ce qu'ils entendaient par cette nouvelle messe. Et alors, ils en ont donné une définition pour nous dire exactement ce que c'est à leur avis. Eh bien, cette définition est celle-ci. La scène du Seigneur, dite encore messe, est l'assemblée ou réunion du peuple de Dieu, groupée sous la présidence du prêtre, afin de célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi à ce rassemblement local s'applique éminemment la parole du Christ. Là où deux ou plusieurs se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Voilà la définition. Eh bien, cette définition, elle est contraire à la doctrine catholique de la foi. Elle est inadmissible pour un catholique. C'est la définition de la scène protestante. Vous avez peut-être pu peser un peu les mots de cette définition. Vous voyez la différence entre la messe catholique où le prêtre consacre l'hostie, et par cette consécration, l'hostie devient le corps, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la présence est une présence substantielle de notre Seigneur sur l'autel. Et tandis que dans cette nouvelle messe, selon cette définition, ce n'est plus la même chose. La présence de notre Seigneur est une présence spirituelle, comme quand deux ou trois se réunissent pour prier au nom du Seigneur. C'est la même présence que quand vous êtes dans votre maison et que vous vous êtes réunis pour prier le chapelet ou autre prière. Voilà la définition qui a été donnée à la nouvelle messe. Vous pensez bien qu'il y a eu de très grandes réactions, à tel point que le cardinal Journet est allé à Rome. Il était ami de Paul VI, à ce moment-là, du pape Paul VI, et il lui a fait comprendre que c'est une définition inadmissible et qu'il fallait changer. À cause des pressions qui ont été faites, la définition a été changée, mais ils ont précisé l'esprit dans lequel ils ont changé cette définition. Ils ont bien dit que cela était tout à fait dans le même sens que la définition première, cependant, pour éviter de choquer quelque esprit, voilà, alors on changeait quelques termes, mais que ça restait exactement la même chose qu'avant. Et d'ailleurs, ils ont peut-être changé quelques termes de la définition, mais la messe n'a pas été changée. C'est comme un architecte qui changerait les plans après avoir bâti la maison. Ça ne change pas la maison. Une petite comparaison. Eh bien, dans ces définitions, nous avons la déclaration d'intention de ceux qui ont élaboré cette nouvelle messe. Quelle a été leur intention? Elle est là. Et d'ailleurs, Monseigneur Bunini, c'est le principal dans l'élaboration de cette nouvelle messe, et dont son appartenance à la franc-maçonnie est connue, même elle a été publique. Eh bien, ce qu'il fallait faire, c'était d'enlever dans la messe tout ce qui gêne nos frères séparés. Et c'est pour cela qu'ils ont invité les 6 pasteurs protestants à venir et pour aider à l'élaboration de cette nouvelle messe. Certains diront, mais non, les pasteurs étaient là que comme témoins, que comme spectateurs. Ce n'est pas vrai. Car l'évêque américain, Mgr Baum, a déclaré en 1967 qu'ils étaient bien là pour participer à l'élaboration de cette nouvelle messe. On voit bien que l'esprit qui a présidé à cette nouvelle messe n'est pas un esprit de foi. Mais c'est l'esprit de ce faux œcuménisme. Ce faux œcuménisme qui a été tant et tant de fois condamné par les papes, par les souverains pontifes, surtout de ces dernières décennies, derniers siècles passés, ce siècle. Et les conséquences, eh bien, c'est la protestantisation. Et d'ailleurs, les pasteurs protestants eux-mêmes l'ont déclaré bien des fois. Je ne voudrais pas vous les prendre toutes ces citations. Vous les retrouvez dans les ouvrages qui ont été écrits sur ce sujet. Je vous en prendrai qu'une. Celle qui a été faite en 1981 par le pasteur René Barjavel. Il nous dit ceci. L'Église catholique a cassé sa liturgie, a lessivé son rite, a escamoté ses mystères, a baissé sa flamme de joie, à toute vitesse, elle se fait protestante. Voilà. Et d'autres ont dit, eh bien maintenant, nous pouvons prendre très, très convenablement ce rite de l'Église catholique, cette nouvelle messe. Alors qu'il n'était pas question autrefois. Je ne veux pas me rallonger sur les citations, sinon on n'en terminerait pas, mais je vous laisse le soin de consulter ces ouvrages qui ont été et qui traitent de cette question. Quel jugement portait Mgr Lefebvre sur cette nouvelle messe? Et vous le savez, pour l'avoir entendu bien souvent. Lorsque j'étais au séminaire, il y eut le départ de plusieurs séminaristes italiens et avec eux un professeur. Ça a fait beaucoup de bruit, bien sûr. Et eux sont partis parce qu'ils n'ont pas accepté que Mgr Lefebvre dise que la nouvelle messe est mauvaise. Ils étaient d'accord pour dire elle est moins bonne, d'accord, mais de dire qu'elle est mauvaise, ça ne va pas. Et ils sont partis à la suite de cela. Mgr Lefebvre a dit non. On ne peut pas dire qu'elle est moins bonne, elle est mauvaise. Il disait aussi souvent, c'est une messe empoisonnée. Le bon sens nous fait, on ne va pas prendre une quelconque boisson ou quelconque nourriture empoisonnée, même ce serait du caviar avec un peu de poison dedans, on jetterait tout ça. On ne prendrait pas le risque de s'empoisonner. Si on ne prendrait pas le risque de s'empoisonner, d'empoisonner notre corps, encore moins d'empoisonner notre esprit, notre âme. Même Monseigneur est allé jusqu'à dire « Cette messe est scandaleuse. » Non pas le scandale dans ce sens que ça choque les gens. Scandaleuse dans le sens que le scandale porte au péché. Le scandale, c'est ce qui porte au péché. Jean Alberto prenait un petit exemple pour expliquer ce que c'était que le scandale. Il disait « Le scandale, c'est comme le caillou sur le chemin contre lequel on bute et il nous fait tomber. » Eh bien, la nouvelle messe est scandaleuse en ce sens qu'elle nous porte au péché. Elle nous conduit au péché grave contre la foi. Ce n'est pas le moindre des péchés. C'est donc un péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous rend désagréables à Dieu. Comment alors ? Voyez ? Vous voulez une preuve de cela ? Eh bien, c'est évident. Regardez autour de vous, les gens qui assistent régulièrement à ces messes n'ont plus la foi catholique. Il m'est arrivé l'autre fois d'aller porter la communion chez un malade à l'hôpital, et à côté de lui était un personnage de 84 ans qui a élevé 9 enfants, bonne famille, catholique, et qui ne croit plus au dogme de l'Église. Pour lui, il n'y avait plus d'enfer. Pour lui, il y a plus de... Pour lui, le bon Dieu, tout le monde va au ciel. Il n'a plus la foi catholique. Sur beaucoup de sujets dont on a parlé, il n'était plus du tout catholique. Et pourtant, on se disait très pratiquant, allant à la messe tous les dimanches, il a perdu la foi. Et c'est un exemple dont vous connaissez bien plus que moi encore. Alors, pratiquement, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Est-ce qu'on peut participer à la messe, à la nouvelle messe ? Eh bien, je vous lis ce que dit le droit canon. C'est la règle de l'Église. Le droit canon, au canon 1258, il est écrit ceci. La participation active au culte, aux actes culturels des non-catholiques est absolument défendue. Qu'est-ce qu'on entend par participation active ? Eh bien, par exemple, c'est de prendre part à la cérémonie, soit d'être témoin à un mariage non catholique, soit d'être parrain d'un baptême non catholique, soit de jouer même de l'orgue, soit même de chanter dans une chorale, ou de recevoir la communion. Voilà, ça c'est la participation active. Eh bien, cette participation active est absolument défendue par l'Église catholique, par le droit canon. Alors vous allez me dire, mais si dans la famille on a un mariage, si on a un enterrement, et quand même, on ne peut pas ne pas y aller. On ferait affront à la famille. Alors le canon poursuit. Tout est prévu. Le canon poursuit en disant, la participation passive aux actes culturels des non-catholiques est permise quand ? Pas toujours. Quand on a un motif sérieux d'y assister, en raison d'une fonction publique, par exemple, et à condition qu'il n'y ait pas de danger d'apostasie et de scandale. S'il y avait un danger d'apostasie ou de scandale, même pour un motif grave, on ne devrait pas assister. Voilà ce que nous dit le droit canon, les règles de l'Église. Qu'entendons-nous par assistance passive ? Eh bien, c'est faire acte de présence. C'est ne prendre aucune part à la cérémonie. C'est être là pour, voilà, pour être là. Et on ne fait pas de cas de cette cérémonie qui est déplaisante à Dieu. Le canon est important. C'est pas nous qui l'avons rédigé, ce canon. Il existe dans l'Église, il a toujours été mis en application. Lorsque l'Église était en bonne santé. Eh bien, ce canon s'applique à cette nouvelle messe, qui n'est pas une messe catholique, mais un culte protestant, élaboré par un franc-maçon. Voilà. Et d'ailleurs, le gouvernement soviétique a demandé au Vatican que ce nouveau rite soit obligé aux catholiques d'Ukraine. Comment ? Le gouvernement soviétique, athée, qui ne croit pas en Dieu, oblige cela aux catholiques d'Ukraine pour qu'ils perdent la foi. C'est d'ailleurs ce que disaient les évêques de Pologne, on nous impose cette nouvelle messe pour faire perdre la foi. Voyez, donc c'est vraiment, c'est une messe empoisonnée et on n'a pas le droit. On met son éternité en danger. Alors il faut observer ces règles de l'Église. Ces règles de l'Église sont là pour nous conduire au ciel. On observe les lignes blanches sur les routes, les doubles lignes blanches sur les routes, et pour éviter des accidents mortels. Et alors il faut aussi observer ces règles de l'Église qui sont là pour nous aider, voilà, pour nous conduire, pour nous dire où est la limite. Voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, cette nouvelle messe est offensante au bon Dieu. Et on ne va pas à la messe pour offenser le bon Dieu. On va justement pour lui rendre un culte, l'honneur, la gloire qui lui est due. Et alors, on ne va pas participer à ces cérémonies qui l'offensent. Alors, vous me direz, bien, pour un dimanche, si nous sommes trop éloignés d'un centre de messe où il y a une bonne messe, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut quand même aller à la messe du village, à la nouvelle messe? Mais Monseigneur disait non. Alors qu'on est obligé d'aller à la messe le dimanche, eh bien, si on est éloigné de plus d'une heure de distance d'une messe, d'une bonne messe, il faut se retirer dans sa maison, prier, lire la messe dans son missel ou dire le chapelet ou le rosaire et s'unir aux messes qui se célèbrent, faire une communion spirituelle, mais on ne peut pas assister à la nouvelle messe. Et on ne manque pas à son précepte dominical. On pourrait bien dire davantage, mais je vous laisse le soin d'aller étudier un peu ces ouvrages qui vous donnent les arguments, le pourquoi, le fondement de ces choses-là. Il faut que nous ayons les idées claires, que nous sachions ce qu'il en est. Voilà. Parce qu'un jour, certainement, que nous serons, on nous demandera, mais pourquoi toi tu vas là? Oh, parce que j'aime bien entendre le latin. Ça ne tient pas debout. Ça, c'est du caprice. C'est pas ça. Non, on a une raison beaucoup plus grave, beaucoup plus profonde, raison de foi. Je veux rester fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on vous fera peut-être des misères. Eh bien, les martyrs, vous croyez qu'ils n'ont pas souffert des misères pour rester fidèles à notre Seigneur? Et notre Seigneur, il s'est laissé cracher dessus. Il s'est fait jeter, rouler par terre, on l'a traîné par terre, notre Seigneur, le Fils de Dieu, pour nous. Et alors nous, pour lui rester fidèles, on a peur d'un sourire en coin de lèvres. On a peur de quelques paroles qui sont qu'un peu de vent. Vous voyez? Non, il faut quand même que nous... Ça, c'est la réalité. Mais j'ai fait. Nous avons, comme disait Monseigneur, un certain martyr moral à souffrir. Mais tout ça, ça sera récompensé. Et pour notre Seigneur, on le fait volontiers. Quand on voit tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà, alors il faut que nous sachions bien ce qu'il en est. Vous voyez? Et vous pouvez étudier la question. Lisez, par exemple, la très belle explication de Louis Saint-Laurent sur la nouvelle messe. Monseigneur Lefebvre nous le recommandait, cet ouvrage. Il est très bien fait. Vous avez aussi Raphaël de Brienne, qui est un excellent résumé de la question aussi. Vous avez des ouvrages encore beaucoup plus élaborés, beaucoup plus scientifiques là-dessus. Fortifiez votre foi. Parce que le problème, c'est qu'on veut aller au ciel. Et comme dit Jésus, ce sont des paroles qui ne bougeront pas. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Qu'adviendra-t-il de tous ces gens qui auront suivi par obéissance et qui seront devenus protestants par obéissance? Bon, Dieu jugera selon ce qu'il leur a donné de lumière et selon qu'ils auront agi. Ce n'est pas notre problème, heureusement, ce serait trop compliqué. Mais Dieu jugera juste. Mais ces paroles de Jésus demeurent. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors il faut, voyez, on en arrive à ce que le pape reçoive le grand rabbin, le Sanhédrin, et ils le disent bien, jamais aucun pape n'a fait cela, jamais aucun pape. Alors mes chers fidèles, il faut rester fidèle. Seul celui qui restera fidèle jusqu'à la fin sera sauvé. Ce sont les paroles d'un Dieu. Alors demandons cette grâce à Notre-Dame. Nous avons fait le pèlerinage dimanche passé à Notre-Dame, gardienne de la foi. Soyons heureux d'avoir ce sanctuaire dans notre pays. Eh bien, demandons-lui de nous garder fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, même si nous devons endurer le martyr. Pensons à ceux qui nous ont précédés. Pensons à notre Seigneur. Cela nous donnera du courage. Et qu'importe de ce qu'on dira sur nous. Après tout, ils se reprendront bien, ils s'en mordront la langue et les doigts au jugement dernier. Et c'est ce que nous dit la Sainte Écriture. Ils diront, voilà ceux-là dont nous avons pris pour des idiots, des ignorants. C'est eux qui ont eu raison. C'est nous qui nous prenions pour les savants et c'est nous qui étions dans le tort. Mais l'éternité, elle sera faite. Voilà, mes bien chers fidèles. Alors, s'il y a encore des questions, bien, essayez d'approfondir ce problème. Que soyez au clair, qu'il n'y ait pas de doute dans vos esprits. Voilà, que vous sachiez aussi répondre. Voilà, si on vous en parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des peaux de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un commandement. Un commandement souverainement important, mais qui paraît difficile à pratiquer. Autant il est nécessaire de se garantir des faux prophètes, autant il est quelquefois difficile de les discerner. Et cependant, ce commandement n'est pas fait seulement aux hommes éclairés, mais à tous les hommes, ce commandement est fait. Même les hommes simples y sont obligés par ce commandement. Et Jésus-Christ nous donne un moyen propre à tous, un moyen facile, c'est de reconnaître par les fruits, de découvrir, de discerner selon les fruits. La religion nous propose deux choses. Nous propose des vérités à croire et nous ordonne de pratiquer les commandements. Eh bien, il y a deux sortes de faux prophètes qui vont à l'encontre de ces deux choses de la religion. Il y a des prédicateurs de mensonges et il y a des prédicateurs du vice. Tous les deux cherchent à nous égarer, à nous mettre dans des voies erronées, dans la voie de l'erreur, dans la voie du péché. Les uns pervertissent, les autres corrompent. Eh bien, nous devons nous défendre avec un soin extrême des séductions de cela et des illusions de ceci. Les docteurs de l'erreur sont de deux genres. Il y a les hérétiques qui combattent les doctrines de l'Église. Et il y a les schismatiques qui, eux, attaquent l'Église en elle-même en s'efforçant de la diviser, de diviser les membres de l'Église, de les séparer, de les déchirer. Ces deux classes d'ennemis de la catholicité, quoiqu'ils sont distincts par leur nature, cependant se confondent presque toujours dans les faits. L'hérésie devient promptement un schisme. Les hérétiques, eux, combattent la doctrine de l'Église, c'est-à-dire la doctrine que Jésus-Christ a révélée lorsqu'il est venu en ce monde. Ils combattent cette doctrine que les apôtres ont eu l'ordre d'enseigner à toutes les créatures. On peut se demander si ce commandement de notre Seigneur a été fait seulement aux Juifs de son temps, pour les mettre en garde contre l'autorité religieuse de cette époque, le pape de l'Ancien Testament, qui était Caïphe, et les évêques, les cardinaux, qui étaient les scribes et les pharisiens, qui avait changé la religion. Eh bien, en regardant l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que ce commandement a servi très souvent, car tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu de nombreux schismes, de nombreuses hérésies. Et les fidèles ont dû toujours faire appel à cela. Ils ont dû discerner s'ils avaient affaire à des bons ou des mauvais prophètes. Je ne veux pas vous dressez toute la liste des hérésies qu'il y a eu, ça prendrait beaucoup trop de temps pour n'en prendre que quelques-uns, entre autres l'arianisme, ceux de cette période, ont dû aussi discerner est-ce qu'Arius est de Dieu ou non. Surtout qu'Arius séduisait beaucoup de monde, des prêtres, des évêques. Et ça a été même si loin que le pape Libère a cru devoir condamner un des seuls qui tenait ferme la foi catholique, saint Athanase. Et cette crise a duré 50 ans. Imaginez un peu l'attitude des fidèles à cette période. Ils ont dû appliquer ce commandement. Et puis, il y a eu aussi Luther. Luther qui était un prêtre, un moine augustinien. Alors encore quelqu'un qui avait enseigné dans les facultés, dans les universités, la Sainte Écriture. Était-ce un bon prophète, un mauvais prophète? Là aussi, les gens ont dû faire appel à ce principe. Ce qu'il fallait faire dans cette situation. Eh bien, voyez, comme tout corps de métier, comme un médecin, lorsqu'un patient vient le trouver, il doit faire appel au principe de la médecine, au principe de l'anatomie, pour essayer de découvrir le mal qu'a le patient. Quelles sont les causes? Un mécanicien aussi doit faire appel au principe de la mécanique pour découvrir ce qu'il y a qui ne fonctionne pas dans cette machine. De même, un électricien, etc. Eh bien, nous aussi, dans les moments difficiles, ce qu'ont fait d'ailleurs ceux qui nous ont précédés, ils ont dû se rappeler les principes de l'Église. Se rappeler les principes pour voir si, en fait, ce qui se passe correspond ou pas à ces principes. Et d'après ces principes, déceler l'erreur, le mal. Eh bien, il me semble utile de rappeler quelques indications que Dieu a confiées à l'Église catholique le dépôt de la foi, c'est-à-dire les vérités que nous devons croire. Et cette révélation a été achevée avec la mort du dernier apôtre, l'évangéliste Saint Jean. Eh bien, à partir de ce moment, Dieu ne nous dira plus de nouvelles vérités. À partir de ce moment-là, Dieu ne nous dira plus de nouvelles vérités. Mais il continuera de nous rappeler ces vérités contenues dans ce dépôt révélé. Et alors, le rôle de l'Église, que le bon Dieu a institué, que notre Seigneur a institué, va être de garder ce dépôt, de garder ces vérités révélées, aussi de les défendre contre les négateurs, contre les hérétiques. C'est ce qu'a fait l'Église lorsqu'elle se sont réunis en concile, les condamnations. Donc de défendre contre ces négateurs et aussi de les interpréter, de les expliquer afin que tous les hommes, instruits ou simples, puissent se nourrir, puissent fortifier leur foi et ainsi puissent se sauver. Voilà le rôle de l'Église. Et cette révélation, où la trouvons-nous? Eh bien, vous savez qu'elle est contenue dans deux sources. Dans la Sainte Écriture, et dans la tradition, la Sainte Écriture ou la Sainte Bible. La tradition, qui en somme, n'est que les vérités enseignées par Jésus-Christ et les apôtres, et qui ont été transmises d'âge en âge, d'une autre façon, par un autre moyen que la Sainte Écriture, que l'écrit. Eh bien, ces deux sources, on ne peut pas les séparer. Voyez, la révélation n'est pas total dans la Sainte Écriture ni dans la tradition, il faut les deux. Si l'on se contente qu'un des deux, on s'égare. Voyez, c'est ce que font les protestants. Le protestantisme se repose seulement sur la Sainte Écriture. Ils disent sola scriptura, que la Sainte Écriture. Le reste, ils ne veulent rien. Alors ils sont dans l'erreur, voyez. Surtout quand on sait qu'en fait, la tradition est plus importante que la Sainte Écriture. Parce que notre Seigneur a dit à ses apôtres d'aller prêcher. L'Écriture n'est venue qu'après. Le Nouveau Testament n'a été que rédigé plus tard. Voyez, ils ont d'abord été enseignés et quelques communautés chrétiennes ont désiré avoir par écrit un peu le récit de la vie de Jésus, un peu sa doctrine. Ça a été mis plus tard. Mais ça n'a pas été l'essentiel. des apôtres. Notre Seigneur ne leur a pas dit d'aller écrire, il leur a dit allez prêcher, allez enseigner toutes les nations. Vous voyez ? Donc la tradition a un rôle plus... La tradition a toujours été dans l'Église le principe de la règle de la foi. Et la règle de la foi. Donc Dieu a donné à son Église ces deux sources qui contiennent la révélation, la Sainte Écriture et la tradition. Mais aussi, il a donné un magistère vivant, qui a pour but justement d'éclairer, d'expliquer ce qui est contenu dans ce dépôt de la foi. La tradition, la Sainte Écriture et le magistère sont unis. Si l'on sépare ces trois, eh bien, l'édifice s'effondre. L'Écriture sainte deviendra une lettre morte. La tradition deviendra un choix discutable. On prendra ce que l'on voudra. Et le magistère deviendra l'arbitre humain des choses de Dieu. Et non, le magistère donc est un pouvoir tout entier au service de la révélation. Son seul but, c'est cela, d'être au service de la révélation, de la transmettre d'âge en âge, de l'expliquer, de la commenter. Et aussi, tout entier, guidé par l'amour de Dieu. Ce que Dieu attend de Saint-Pierre, des apôtres et de leurs successeurs, c'est qu'ils transmettent fidèlement, de génération en génération, ce dépôt révélé. Ils communiquent la grâce. Allez, dit notre Seigneur à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et commandez-leur d'observer les commandements. À partir de ces quelques principes, il nous sera plus facile, plus aisé, de nous diriger dans cette situation troublée que traverse l'Église aujourd'hui. Ce qui a amené tout ce trouble, cette division, ce déchirement, parmi les chrétiens, parmi les catholiques, eh bien, ce sont ces changements intervenus depuis le Concile Vatican II. Alors, on peut se demander, est-ce que ces changements ont été effectués par des bons pasteurs ou par des faux prophètes? On pourrait se dire, comme beaucoup de chrétiens font, « Oh, c'est pas notre problème, c'est le problème des curés, c'est le problème des religieux, nous, on suit. » Voilà. Eh bien, ils vont contre le commandement de Dieu, contre le commandement de notre Seigneur qui demande de discerner et de nous tenir en garde contre les faux prophètes. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il faut faire la volonté du bon Dieu. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui ira dans le royaume des cieux, c'est celui qui fait la volonté du bon Dieu. Et la volonté du bon Dieu, c'est justement que nous discernions et que nous nous tenons en garde contre ces faux prophètes qui nous conduisent loin de Dieu, qui nous font manquer notre éternité. Alors, pour savoir si nous avons affaire à de bons ou de faux prophètes, eh bien, il faut regarder les fruits. Voilà, c'est notre Seigneur qui nous indique le moyen. Vous vous souvenez de cette statistique qui a été faite en 1990 par le Renouveau Rodanien sur le catholicisme en Valais. Peut-être vous vous souvenez, peut-être vous avez la plaquette dans vos familles. Je ne veux pas vous rappeler tout cela, mais quelques points qui nous permettent quand même de voir quels sont les fruits. La dernière statistique qui avait été faite en Valais, c'était en 1958, donc sous le temps de Pie XII. Et donc la dernière que nous connaissons en 1990. Eh bien, par exemple, pour la pratique dominicale, l'assistance à la messe du dimanche, qui est, si l'on manque le dimanche à la messe, c'est un péché mortel. On perd l'état de grâce, et si on meurt ainsi, on va en enfer. Ça, c'est clair comme deux fois deux. Font quatre. Eh bien, en 1958, en prenant tous les âges, on a une moyenne de 80 à 95% des catholiques qui assistent à la messe le dimanche. Tandis qu'en 1990, on arrive à 35%. Oui. Le tiers des catholiques, pas de tous les Valaisans, mais des catholiques valaisans. Alors déjà, les deux tiers ne sont plus en état de grâce en manquant la messe le dimanche. Perdre l'état de grâce. Pour les ordinations sacerdotales, entre les années 56 et 60, il y avait 14 à 15 ordinations par année en Valais. Eh bien, en 1900,
De 1986 à 1990, pour faire une moyenne, on arrive entre 2 et 3 par année. Les divorces. Envers 1960, on arrivait à 20 divorces. Et en 1988, à 247 divorces. Au sujet de la doctrine, eh bien, 81,3% des catholiques valaisans sont d'accord avec la proposition blasphématoire que la religion n'a pas d'importance, que toutes peuvent conduire au salut éternel. C'est une insulte à notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi s'est-il alors incarné? Pourquoi a-t-il voulu souffrir cette passion d'une façon si cruelle? C'est une insulte à notre Seigneur. Eh bien, les 4/5 des Valaisans ont perdu la foi. Des 4/5 des catholiques valaisans. Pas des, je ne tiens pas compte des protestants et des autres religions. N'ont plus la foi. Il suffit de nier un seul dogme, n'ont plus la foi. Et c'est grave. Puisque sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On ne peut pas aller au ciel sans la foi catholique. Pas possible. Alors voilà les fruits que nous devons constater. Alors, on est obligé de conclure que cela ne peut pas venir de bons pasteurs, mais de faux prophètes. Alors vous me direz, mais bon, si les fidèles ne suivent pas les autorités religieuses, bon, on ne peut pas accuser les autorités religieuses. Vous voyez, s'ils ne veulent pas obéir, ben, ma foi, ils prennent ses gardes. Mais le pape, les évêques, quand même. Alors, c'est pareil, vous savez. On est obligé de constater qu'à Rome, on professe, on enseigne des propositions que les papes précédents ont condamnées comme erreur. Par exemple, la nouvelle conception œcuménique de l'Église. Elle a été condamnée par le syllabus comme étant une erreur et contraire à l'enseignement de l'Évangile, de l'Église, contraire à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on professe ça comme une vérité. Ou bien l'orientation démocratique de l'Église. Ça aussi, ça a été condamné par le Concile Vatican I, le siècle dernier. Ou bien la liberté religieuse. Ça a été condamné par le Quanta Cura de Pie IX et Libertas de Léon XIII, comme étant des erreurs. Et aujourd'hui, eh bien, on le prône comme vérité. Ou bien la conception protestante de la messe et des sacrements. Ça a été condamné par le Concile de Trente. Alors ça a l'air d'être si évident, mais c'est si clair, les fruits sont là. Donc on ne peut même pas se fier à nos autorités religieuses qui se sont égarées. Et c'est de notre devoir. Nous devons discerner et nous tenir en tenir garde contre ces faux prophètes qui viennent à nous sous des peaux de brebis et qui sont des loups ravisseurs. Oh, je ne veux pas rallonger, on pourrait en rajouter des faits, voyez, entre ce nouveau catéchisme, tout à fait moderniste, mélangé d'erreurs et de vérités. Mais pour mieux faire passer l'erreur, qu'ils ont pris quelques vérités. D'ailleurs, à Rome eux-mêmes, ils se rendent compte que la situation de l'Église est tragique. Ils reconnaissent la crise de l'Église. Le cardinal Ratzinger a même déclaré que l'Église est dans une situation telle qu'il n'y a que Dieu qui peut s'en sortir. Alors, à quoi servent-ils? Oui. Voilà, mes bien chers fidèles, il faut que nous sachions cela, nous rappeler, pour fortifier nos positions, savoir que ce n'est pas pour une question d'opinion, une question de lubie, voyez, qui nous passe par la tête, et non, que c'est un fondement beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux, ce que nous vivons, parce qu'il en va de la vie éternelle. On veut garder notre foi, on veut se sauver. Bien sûr, Dieu jugera chacun selon ce qu'il aura répondu par rapport à ce qu'il aura reçu, mais ne l'oublions pas, tout et chacun de nous, nous sommes tenus de discerner et de nous tenir à l'écart de ces faux prophètes. Alors, demandons à notre Sainte Vierge Marie. Ça n'a pas toujours été facile pour elle d'avoir accepté de devenir la mère de Dieu. Ça lui pensait qu'elle n'a pas été très honorée lorsque notre Seigneur était crucifié au calvaire. Elle a dû en recevoir des moqueries. Eh bien, elle est restée au pied de la croix. Voilà. Tant pis pour ce que l'on nous prendra. C'est la mère du criminel. Voilà. Oui, c'est la maman du criminel, là. Notre Seigneur qui était considéré comme un criminel, le plus grand bienfaiteur de l'humanité. Voilà. Alors, c'est la vie. C'est comme ça. Il y aura toujours la lutte entre les deux cités, la cité de Dieu et la cité de Satan. Donnons-nous bien à elle, qu'elle nous garde aussi, Notre-Dame, gardienne de la foi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après nous avoir fait contempler Jésus enfant, couché dans cette humble crèche de Bethléem, adoré par les bergers et par les rois mages, la Sainte Église, en nous faisant célébrer cette fête de la Sainte Famille, veut nous présenter un modèle accompli de famille chrétienne. Vous savez que la famille a été voulue par Dieu, a été instituée par Dieu, et c'est de cette cellule que se décide l'avenir et le sort de l'humanité. La famille est le dernier rempart de l'ordre et de la vie sociale, de l'État et de la religion. De la sainteté des familles découlera la sainteté de la société et du pays tout entier. La famille a un rôle si capital, si important dans la société et dans le plan de Dieu que le Créateur de toutes choses a voulu nous donner une famille exemplaire dans laquelle nous trouverons tout ce dont nous avons besoin pour la sanctification de nos foyers. Fonder une famille, c'est une vocation dont beaucoup sont appelés. Et pour ceux qui fondent une famille, eh bien, c'est un moyen de sanctification et de progrès spirituel, bien sûr. Tous, nous avons à tendre vers cette unique fin, vers cet unique but, la gloire de Dieu, le salut de nos âmes. Et pour cette fin, il faut prendre les moyens qui nous conviennent le mieux. Pour beaucoup, le moyen qui convient le mieux, c'est le mariage. Pour d'autres, ce sera la vocation religieuse. Pour d'autres, ce sera le célibat. Pour certaines de leurs professions. Et donc, pour ceux qui veulent entrer dans le mariage, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils n'ont pas à se préparer. Ou peut-être se disent-ils, il suffit de nous préparer 6 mois ou 1 année avant. Non. Il faut qu'ils s'y préparent toujours par la pratique des vertus chrétiennes. Nous sommes tous appelés à pratiquer la vertu chrétienne et à nous y exercer. Eh bien, elle sera spécialement utile aussi pour le mariage, afin d'y amener le cortège des vertus. C'est ce qui fera la solidité du mariage. Et donc, que les jeunes ne manquent pas à cela. En se disant, je ne suis pas fait pour la vie religieuse, alors on passe faut que jeunesse se passe. Attention, profitez de la jeunesse pour semer. Ce que vous semez maintenant, vous le récupérez, vous le récolterez plus tard. Entrez sérieusement dans la vie, et préparez avec profondeur votre avenir. Ne suivez pas ces coutumes, ces modes païennes qui se répandent de plus en plus autour de nous, où les jeunes se laissent aller à n'importe quoi. Non, le mariage, c'est quelque chose de grave. De même que toute entreprise importante, cela nécessite une préparation, des calculs, une étude profonde. Bien plus le mariage, où nous nous engageons, où les jeunes s'engagent pour la vie entière, pour le bien et pour le pire. Alors il faut, et ce qui manque aujourd'hui beaucoup, les jeunes prennent ça trop à la légère. Préparez-vous dans le mariage par la vertu de chasteté, de pureté, car il faut donner du sang pur à la postérité. Ceux qui entrent dans le mariage et qui ont manqué à ces vertus, cela se reporte sur les descendants, sur les enfants. Il y a des tares qui se portent sur eux. Veillez cela. Tout ce que vous ferez pour le bon Dieu, Dieu vous le rendra en bénédiction. Prenez cela donc bien au sérieux. Ne vous laissez pas influencer par ces modes et ces manières de faire que l'on rencontre si souvent aujourd'hui. L'Église a des règles précises. Par exemple, pour ceux qui sont fiancés, donc qui se sont promis mariage, l'Église leur demande de se comporter en frères et sœurs. Alors qu'on pensait bien que ceux qui ne sont pas encore entrés dans les fiançailles, l'attitude qu'ils doivent avoir, encore beaucoup plus de réserve, de prudence. Bien sûr, il faut ce temps de fréquentation pour apprendre à se connaître. Et justement, il faut apprendre à connaître la vertu et pas les sentiments. Il faut voir quelle est la vertu au fond de l'âme qui se trouve. Que les jeunes hommes souvent se posent cette question: quelle mère je veux donner à mes enfants? Est-ce bien cette jeune fille que je veux choisir pour être la mère de mes enfants? Alors il faut découvrir si elle a les qualités de mère. Ou si elle n'a qu'une façade. Et de même, les jeunes filles, eh bien, qu'elles réfléchissent, qu'elles prennent un peu de distance. Il a toujours été recommandé aux jeunes filles d'être très réservées et de ne pas être légère avec les jeunes hommes. Aussi doivent-elles se poser cette question: est-ce bien ce jeune homme que je voudrais être pour le père de mes enfants, pour le chef de famille? Et pour cela, eh bien, il faut que je voie les qualités qu'il a. Les bonnes familles, ça se prépare sérieusement, profondément. N'oubliez pas non plus pourquoi l'Église demande une certaine réserve, une certaine prudence dans les premières fréquentations. C'est que dès que l'amour s'installe dans les cœurs, c'est beaucoup plus difficile de se maîtriser. L'amour aveugle, dit-on. Alors il vaut mieux avoir un peu de réserve, un peu de distance au début. Et lorsque nous avons vraiment repéré les vertus que nous cherchons dans le conjoint, eh bien, à ce moment-là, on peut déjà étudier plus sérieusement l'avenir. Voilà. Veillez donc, cette prudence est nécessaire pour ne pas se laisser entraîner. Le démon veut essayer de briser, veut faire manquer les mariages, veut faire manquer de fonder des bonnes familles en ne faisant pas observer les commandements du bon Dieu. Et pour ceux qui ont déjà fondé des familles, n'oubliez pas non plus la charge importante que vous avez. Vous devez tout faire pour obtenir un climat qui favorise la vertu dans vos foyers. Il vous faut éloigner tout ce qui empêcherait les âmes de se rapprocher de Dieu et d'atteindre leur fin pour laquelle ils ont été créés. N'oubliez pas, chers parents, que les enfants vous sont confiés. C'est un dépôt que Dieu vous fait. Ils ne vous appartiennent pas, mais vous en avez une responsabilité. Dieu vous les confie tout particulièrement. Il a créé ces âmes pour que vous les conduisiez vers Dieu, pour que vous les fassiez entrer dans le ciel. Imaginez comment Saint Joseph a dû prendre son rôle au sérieux, à qui il était confié les deux êtres les plus chers à Dieu le Père, Dieu le Fils, incarné, la très sainte Vierge Marie, la créature la plus parfaite, au-dessus des anges. Dieu a confié à Saint Joseph, il se rend bien compte de cela.
Et donc, chers parents, il faut que vous soyez des exemples, des modèles pour les enfants. N'oubliez pas que les enfants, quand ils sont petits, ils ont une faculté d'observation très développée. Une parole de travers, un geste mal, un mauvais geste, cela se grave en eux. Peut-être que ce ne sera plus que plus tard que cela ressortira. Que penser des parents qui font pratiquer leurs enfants et qui eux-mêmes ne pratiquent pas? Ce sont des monstres dans l'ordre de la grâce. Les enfants ont très vite vu que ce n'est que superficiel. Alors, tant qu'ils sont un peu soumis, tant qu'ils doivent un peu obéissance à leurs parents, ils font ce que leurs parents leur disent. Mais dès qu'ils ont un certain âge, quelle responsabilité devant Dieu! Mais nous avons tous dans cette sainte famille, voyez, de quoi tirer des leçons. Et les parents et les enfants. Saint Paul nous dit, voyez, que la société est comme un corps composé de différents éléments, de différents organes, mais qui concourent tous au même bien, au bien commun de ce corps. Il n'y a qu'une tête qui dirige, qui préside à ce corps, et tous les éléments suivent les directives de ce corps, de cette tête. Et alors il y a l'harmonie. Il doit en être de même dans la famille. Dieu l'a organisé de cette façon. Il y a une hiérarchie, il y a une autorité, mais cette autorité ne doit pas être exercée d'une manière despotique, non, d'une manière paternelle. La famille doit prendre l'exemple dans la très sainte Trinité. Tout père sur la terre tire son nom du Père du ciel. Ils doivent prendre donc exemple sur le Père du ciel. Et les enfants doivent prendre exemple sur Jésus. Quelle leçon nous donne Jésus? Eh bien, il a fait ce qu'il y a de mieux. Il a obéi. Nous dit la Sainte Écriture, il était soumis, mis dessous. Quoi? Le Créateur, soumis à des créatures? Oui. Jusqu'à quel âge? 12 ans? Jusqu'à 30 ans. Quelle leçon, mes amis. Quelle leçon pour vous, chers enfants. Jésus, le Fils de Dieu, qui se soumet à Jésus, à Marie et à Joseph pendant 30 années. Voilà. Jésus a très à cœur cette vertu d'obéissance. C'est par obéissance qu'il s'est incarné. C'est par obéissance qu'il s'est laissé mettre à mort sur la croix pour réparer le péché de désobéissance de nos premiers parents. Voilà, et bien qu'aujourd'hui, cette fête de la Sainte Famille soit pour nous une occasion de toujours sanctifier davantage nos familles. Donc, chers parents, veillez à votre devoir d'éducation. Vous aurez à rendre compte spécialement devant Dieu. Lorsque les jeunes commencent à se fréquenter, là aussi vous devez veiller. Et les jeunes, vous devez toujours tenir compte des avis de vos parents, qui ont l'avantage de l'expérience. Non seulement il faut procurer aux enfants, chers parents, il ne faut pas seulement procurer aux enfants tout le bien matériel, mais surtout dans la famille. Bien sûr, la vie est engendrée, vie naturelle, mais surtout la vie surnaturelle, qui doit avoir une plus grande place, une priorité. Donc veillez à la santé des âmes des enfants, qu'ils se confessent régulièrement, qu'ils aiment le bon Dieu. Il faut leur donner des bonnes habitudes. Et les habitudes, vous le savez, s'acquièrent par la répétition des actes bons. Ainsi, il faut les rendre vertueux. Quelquefois, il faudra être aussi rigide qu'un tuteur pour un arbre faible. Il faut que l'enfant, quittant la famille, soit formé, une volonté équilibrée, qu'il soit maître de lui-même, qu'il se domine et ne se laisse pas dominer par le monde. Voilà, mes bien chers fidèles, quelques considérations sur la famille qui a, qui, qui est une cellule très importante pour la société. C'est la base. Si les familles sont saintes, la société sera sainte. Eh bien, demandez à la Sainte Famille, à Saint Joseph, à la Sainte Vierge, à Jésus, voilà, de vous aider à toujours sanctifier davantage vos familles, à bien remplir votre rôle de parent, de votre rôle d'enfant, voilà, enfant soumis, obéissant, parent modèle de chrétien, modèle de ferveur. Éveiller, d'éloigner des enfants toute revue, tout ce qui pourrait les éloigner de Dieu, tout ce qui pourrait leur faire du tort à leurs âmes. Aussi la télévision, ça il ne faudrait pas la voir, ou alors que ce soit sous clé. Ça fait tellement de mal aux âmes que ce serait vraiment à rejeter de la maison. Pour le peu de bien qu'il y a, on y perd son âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous pouvons admirer dans cet officier royal de l'Évangile d'aujourd'hui, un beau modèle à imiter par les parents chrétiens, par les maîtres, les employeurs, en somme par tous ceux qui sont supérieurs, qui ont d'autres au-dessous d'eux. La sollicitude et l'affection de ce père pour son fils étaient telles qu'il entreprend d'aller trouver Jésus. Lui, l'officier royal, allait trouver Jésus qui n'était qu'en son début de la vie publique, donc qui n'était pas aussi connu qu'il ne l'était à la fin. Eh bien, tout officier royal qu'il était, il va auprès de notre Seigneur pour demander de guérir son fils. Mais cet officier est encore plus admirable dans son zèle pour l'instruction et la conversion de toute sa maison et de tous ses serviteurs. Voilà, cela lui tenait à cœur. Et à l'occasion de cet événement, eh bien, ce fut une grande grâce pour toute la famille et tous les serviteurs de cette maison. Les chefs de famille, les supérieurs, ne peuvent travailler efficacement à leur salut sans travailler en même temps à celui de leurs enfants. Et ce serait en vain pour les pères et les mères de famille de passer leur vie à faire pénitence, à pleurer leurs péchés, à distribuer leurs biens aux pauvres, s'ils ont le malheur de négliger le salut de leurs enfants. Pour eux, toutes leurs bonnes œuvres sont perdues s'ils négligent leur premier devoir d'État, qui est de veiller au salut de leurs enfants. Les parents doivent se soucier pour le corps et pour l'âme de leurs enfants. Pour le corps, bien sûr, les nourrir, les vêtir, les faire travailler aussi, selon leur âge et leur force. Quant à la nourriture, les nourrir sainement et ne pas faire tous leurs caprices, ne pas leur donner que ce qu'ils veulent. Mon Dieu a mis dans chaque chose ce qui est nécessaire pour l'équilibre de notre corps. Alors il faut habituer les enfants à manger de tout. Et pas non seulement ce qu'ils désirent. Et attention aux sucreries, c'est mauvais pour leur santé. Donc c'est un devoir aussi de veiller, de ne pas leur donner tout ce qui leur passe par la tête, toutes leurs envies. Le vêtement, bien sans avoir une recherche exagérée, il faut que les enfants aient l'habitude d'une tenue correcte. Il faut leur former le goût. Vous voyez, il ne faut pas oublier que les enfants, ils n'ont rien quand ils naissent. Ils n'ont aucune connaissance, aucune formation. Tout est à former en eux. Il faut leur donner le goût du beau, le goût de la modestie, le goût de ce qui est propre. Il faut qu'ils aiment à être voilà, correctement vêtus, même dans la maison. Il ne faut pas laisser cette habitude aux enfants de traîner en pyjama dans la plus grande partie de la matinée. C'est pas bon pour eux. Qu'ils s'habillent dès le lever, qu'ils aient cette habitude. Il ne faut pas non plus habiller les enfants avec les chiffons de la mode. C'est très courant de voir ces vêtements qui ressemblent à des pyjamas ou à des tenues de nuit. Ça, ça convient pas. C'est pas digne. Non, il faut qu'ils se rendent compte de la différence entre la tenue de nuit ou bien la journée. Mais souvent, on voit ça, c'est dans ces chiffons. Ce qui contribuera beaucoup à cela, ce sera aussi l'exemple que les parents donnent. Ainsi qu'ils se forment. Alors, si les parents sont édifiants en tout, dans leur tenue, dans leur entretien, tout ça, bien les enfants seront édifiés. S'il manque à cela, les enfants seront mal édifiés. Vous voyez ? C'est très important, et surtout que les enfants petits ont une faculté d'observation beaucoup plus développée qu'on, ce qu'on peut imaginer. Et c'est normal. Ils observent tout et tout se grave en eux. Donc veillez aussi. Les parents doivent veiller que les enfants soient bien habillés. De même, il faut que les enfants se rendent compte que le dimanche n'est pas un autre, comme un autre jour de la semaine. Et c'est pourquoi on habille les enfants, non pas avec n'importe quoi le dimanche, on met des habits propres, des habits du dimanche. C'était une coutume qui était toujours pratiquée. Voilà. Pourquoi on va rendre à Dieu le culte qui lui est dû? Eh bien, on va en tenue digne. Vous voyez? Et travailler. Il faut leur inculquer cet esprit de travailleur, cet esprit de générosité. Leur faire faire les travaux du ménage, du jardin, voilà, et tout ce qui se présente. Ça fait partie de leur formation, de leur équilibre. C'est ainsi qu'ils deviendront des hommes et des femmes de devoir, sachant prendre les responsabilités. Voilà. Le travail va leur développer les facultés, leur habileté, leur dextérité. Ils vont acquérir l'amour du travail lorsqu'on leur a appris à faire un travail bien fait, un travail soigné. Il y a des parents qui disent « Oh, c'est plus facile si on fait nous, et puis c'est encore mieux fait. » C'est juste, mais c'est au détriment des enfants. Alors il ne saura pas, il n'aura pas le goût du travail, pas le goût de l'ordre, pas le goût de rien. Il n'aura que le goût de l'oisiveté. Le travail fait partie de l'éducation, de l'épanouissement de l'enfant. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est que trop vrai. On le constate. On laisse trop faire les enfants ce qu'ils veulent, rôdailler, s'amuser, et ils n'ont plus le goût à l'ouvrage. Ils ne veulent plus travailler. Ils contestent pour un tout et pour un rien. Voilà, c'est des fruits de la mauvaise éducation. Voilà, alors il faut veiller. C'est un souci que doivent avoir les parents. Aussi, les parents doivent veiller de ne pas gâter leurs enfants. Vous voyez ? Qu'ils ne leur fassent pas contracter par leurs exemples ou leurs conseils des habitudes de mollesse, d'oisiveté, de luxure. Voilà. Ils sont toujours fatigués. Ils sont toujours affalés dans leurs fauteuils, dans les fauteuils. Attention, il ne faut pas ça. Voilà. Beaucoup de parents sont répréhensibles et coupables en cela. Ils nuisent ainsi à la foi et au corps et à l'âme de l'enfant. Mais que les parents ne se contentent pas de s'occuper de ce qui regarde la santé du corps, mais bien plus de la santé de l'âme, ce qui demande davantage d'attention, car l'âme est bien plus précieuse que le corps. Elle a une vie éternelle. Et bien que les parents ne s'épargnent aucune sollicitude pour garder pure et forte l'âme de leurs enfants, qu'il la protège de tout ce qui pourrait. Voilà, autant que l'enfant est petit et qu'il est encore bien faible, il faut les protéger, veiller avec soin sur eux, sur leurs penchants, sur leur caractère, sur leurs amitiés, les liaisons qu'ils ont, leurs camarades. Il faut veiller à cela. Que de mauvais camarades ont entraîné d'autres dans les voies, les mauvaises voies, voyez. Il faut que les parents soient vigilants, ils surveillent sévèrement. Et ça, c'est leur devoir d'État. Saint Paul dit que les parents infidèles à ce devoir d'État, d'éducation, sont pires que les païens. Et s'il arrive par malheur que des enfants sont perdus, sont plongés dans le vice, eh bien les parents doivent prier, doivent supplier le ciel pour eux, pour ces enfants. Ils doivent imiter sainte Monique, qui à force de prières et de larmes a obtenu la conversion de son Augustin. Il faut exercer l'enfant à cette vie du monde, dans ce sens qu'il faut l'exercer à s'opposer aux mauvais penchants, à leur nature que le péché originel a affaibli. Il faut les habituer à ce combat de la vie spirituelle, leur donner ce souci de garder ce trésor précieux qu'est l'état de grâce, la présence de la très sainte Trinité. Avoir cette vie de foi. Veiller à ce que les enfants régulièrement fréquentent les sacrements. Ils se confessent. Il faut les exercer à la vie chrétienne. Ça s'apprend comme pour le reste, comme pour un métier. La vie chrétienne s'apprend. Voilà. Si on ne leur donne pas cette... soit l'exemple, soit si on ne les oblige pas un peu au début, ils se laissent aller. Parce que l'enfant choisira toujours la loi du moindre effort. Malheureusement, c'est la nature déchue par le péché originel. Aussi le soin de les instruire. Tout enfant naît ignorant. Eh bien, c'est aux parents de leur donner les premières notions. D'abord sur Dieu, sur les vérités religieuses. Et ça, c'est un devoir strict et rigoureux. Que les enfants sachent qu'ils ont un Père dans le ciel, un Père qui les aime, qui les a créés, qui les attend. Souvenez-vous de cette phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, alors qu'elle n'avait que 3 ou 4 ans. Elle disait à sa mère, « Oh, j'aimerais bien que tu meures. » Comment ? « J'aimerais bien que tu meures. » On ne dit pas ça à sa maman, quand même. « Mais tu nous as dit que c'était tellement beau au ciel et que pour aller au ciel, il fallait mourir. Alors j'aimerais bien que tu meures pour que tu sois au ciel et que tu sois heureuse. » Voilà, elle avait bien compris. Et la maman s'était bien donné la peine de lui faire comprendre ces belles réalités. Réalité de la vie surnaturelle, de la vie de l'au-delà qui nous attend. Alors les enfants sont capables de beaucoup enregistrer, de beaucoup comprendre. Voyez. Et si vous veillez que, si les parents veillent que les enfants ont l'état de grâce, eh bien ils seront inspirés, ils seront guidés par le Saint-Esprit qui est en eux. Ils sont les temples du Saint-Esprit. Et des fois étonnés, bien souvent on est étonné de la réaction des enfants. Mais c'est le Saint-Esprit qui les inspire. L'autre jour, je passais dans une famille et la maman attendait un enfant et ça arrivait à terme, mais elle avait toujours quelques difficultés pour la naissance des enfants. Et puis, elle craignait, s'inquiétait un peu de cet événement. Et puis, il y avait la toute petite, là, qui doit avoir, peut-être pas encore 3 ans, on comprenait à peine ce qu'elle disait. Et elle disait, demain, bébé dans son petit lit. Et quelques heures après, l'enfant est né, alors que s'y attendait même pas la maman. Vous voyez, voilà un peu. Le Saint-Esprit éclaire ces petits. S'ils ont l'état de grâce. Vous voyez. Donc voilà, il faut veiller que les enfants aient ce souci de garder l'état de grâce, la pureté de leur âme. Vous voyez. Qu'ils acquièrent les vertus. Il faut les exercer à cela. La vertu s'acquiert par la répétition des actes bons. Voilà ce à quoi les parents doivent veiller. Il faut apprendre de bonne heure à connaître, à aimer le bon Dieu, à vivre pour lui, sous le regard de Dieu, à prier, à craindre de l'offenser, à observer les commandements. Oui. Voilà. Veillez à ce que quand ils ont grandi, ils aient une éducation religieuse, une éducation profonde. Confiez-les à des personnes qui coopèrent à votre éducation. Si vous avez de la parenté qui n'ont pas ni foi ni loi et qui vivent pas selon les principes de l'Évangile, il ne faut pas leur confier les enfants. Même si c'est les grands-parents ou les parents, il ne faut pas leur confier les enfants. Vous leur faites gâter tout ce que vous avez bâti dans leur âme. C'est beaucoup plus facile de détruire que de bâtir. Ça, c'est une évidence. Voilà. C'est difficile à construire. Ça demande beaucoup de travail, d'application, de soins. Le détruire, c'est très facile. Alors, il faut éviter. Voyez, les parents ont une responsabilité pour cela. Dieu leur a confié les enfants. Voilà. Il ne faut négliger rien dans le soin à apporter aux uns des enfants. L'avenir de vos enfants et de leur éternité dépend de l'éducation qu'ils reçoivent. Voilà. Et les parents doivent rendre compte à Dieu de l'âme de leurs enfants. Voilà. Une bonne éducation, eh bien, ça va là pour toute la vie de l'enfant et pour l'éternité. C'est une grande responsabilité que cette charge d'être parent. Alors il faut savoir quel est le devoir d'État, l'accomplir et demander les grâces. Le bon Dieu donne les grâces nécessaires pour y arriver. Il ne demande pas quelque chose dont il n'apporte pas le secours. Il donne toutes les grâces nécessaires pour accomplir, bien accomplir le devoir d'État. Mais pour cela, il faut garder l'état de grâce. Si les parents ne sont pas en état de grâce, ils ne seront pas inspirés par le Saint-Esprit. Ils se ferment à toutes les grâces que le bon Dieu leur donne. Quelqu'un qui n'est pas en état de grâce ne peut plus recevoir d'autres grâces que la grâce de la conversion. C'est tout. Et alors, toutes les grâces qu'il aura besoin pour l'éducation de nos enfants, imaginez, c'est tragique. Alors, donc veillez à cet état de grâce. Aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui n'est plus connu. On voit tout et n'importe quoi. Voilà. Dernièrement, on passait dans un journal une je n'ai pas encore lu, mais une dame qui soi-disant a des révélations. Et qu'est-ce qu'on apprend de cette dame? Qu'elle est divorcée, remariée, qu'elle n'est pas en état de grâce. Et puis voilà qu'elle aurait des révélations. Ça, c'est vraiment ce que dit notre Seigneur. Veillez-vous, à la fin des temps, viendront des gens qui vous diront le Christ est là. Mais ce sont des menteurs. Ils n'ont pas l'état de grâce, comment voulez-vous? C'est pas possible. Voyez? Et bien voilà. Et puis ça passe comme une lettre dans la boîte aux lettres. Alors voilà, il faut savoir quels sont les principes de notre vie chrétienne. Alors demandons à la Sainte Vierge de nous aider à bien accomplir les devoirs d'État. Cela découlera notre sanctification. On se sanctifie en faisant bien notre devoir d'État, en le faisant du mieux possible et par amour pour le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Souvent dans sa vie, notre Seigneur nous parle du royaume des cieux. Et cette expression, royaume des cieux, revêt plusieurs significations. La première, la plus commune, eh bien, signifie l'Église triomphante, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le ciel. Voilà, le royaume des cieux, c'est le ciel. Première signification. Autrefois, selon les circonstances des discours de notre Seigneur, le royaume des cieux peut aussi signifier l'Église militante, c'est-à-dire nous autres, qui sommes sur la terre, qui nous vont lutter contre nous-mêmes, contre le monde, contre le démon, pour parvenir à cette cité céleste. Et autrefois aussi, le royaume des cieux, dont parle notre Seigneur, signifie, eh bien, le règne intérieur de Dieu dans l'âme fidèle. Son règne par la grâce, par la charité. Eh bien, les deux paraboles d'aujourd'hui ont ces deux sens, ces deux derniers sens, c'est-à-dire le premier, celui de ceux de l'Église militante, qui doit encore faire ses efforts pour parvenir à la vie éternelle, au royaume des cieux. Et puis la deuxième, la parabole du levain, nous parle de ce règne intérieur de Dieu dans l'âme fidèle. Et je m'arrêterai spécialement sur cette deuxième parabole du levain. Le levain représente la grâce qui apporte dans le cœur de l'homme une fermentation salutaire, une transformation salutaire, de même que le levain transforme toute la pâte, et bien ainsi la grâce. La grâce, elle pénètre dans le cœur par son influence. Elle ôte le cœur sa lourdeur, sa pesanteur, son manque de goût. C'est bien le levain qui donne du goût au pain. Ainsi, la grâce va nous rendre plus légers, va nous sortir de notre poids, de notre pesanteur, et donner à notre âme ce goût. Voyez. Cette grâce aussi, comme le vin, bien elle va élever le cœur et elle va le mettre en action. Ce levain sacré est souvent, dans son commencement, bien peu considérable. Eh bien, c'est comme la première grâce qui conduit à la conversion et qui prépare la grande œuvre du salut, est quelquefois comme imperceptible. Quelquefois, c'est une bonne pensée ou une inspiration saine ou un pieux désir ou encore une lecture instructive qui a touché le cœur de l'homme et qui a produit cette grâce de conversion, ou quelquefois un exemple édifiant, a pu toucher une âme, voilà. Ou quelquefois c'est une aumône qui a été faite, qui a obtenu cette grâce, ou une tentation qui a été surmontée, ou un accident, pourquoi pas, certains, par un accident, a été l'occasion pour cela d'une grande grâce, grâce de conversion. Quelquefois, c'est un chagrin, etc. Voilà le levain précieux et qui suffit pour opérer, avec le temps, la plus haute perfection. C'est le point de départ qui est des fois un peu perceptible. Et nous, eh bien, nous avons le bonheur de recevoir ce levain si précieux dans notre âme. Alors il faut, comme le boulanger, que fait le boulanger lorsqu'il veut faire travailler son levain dans la pâte? Eh bien, il met dans un endroit où il fait une certaine température pour donner au levain les conditions les meilleures afin qu'il puisse pénétrer ou qu'il puisse travailler toute la pâte. Eh bien, nous aussi, qui recevons cette grâce de Dieu, il nous faut offrir ces conditions, les conditions les meilleures pour que cette grâce puisse travailler notre âme, transformer notre âme. Il faut aussi éviter de contrarier le levain, de contrarier son utile fermentation. Et si nous le favorisons, donc ce travail, eh bien il va pénétrer toutes nos facultés, il va les réformer, il va transformer pour finir entièrement notre âme. Tels sont les progrès de la grâce dans l'âme qui lui est fidèle. Et si nous savons y correspondre, eh bien cette grâce sera un titre pour en obtenir d'autres, et qui à leur tour pourront encore nous en mériter de nouvelles. La fidélité de l'âme à la grâce multiplie en elle les grâces, et la multiplicité des grâces augmente la fidélité à y répondre. Eh bien, les grâces, elles font germer les vertus, et les vertus attirent les grâces. Donc, ça va sans cesse en progressant. Si, bien sûr, nous faisons tout pour que cette grâce, comme le levain, puisse œuvrer, puisse transformer notre âme. Ainsi, le premier pas que fait le chrétien dans la voie du salut, dans la voie de sa perfection, est non seulement un encouragement à y persévérer, mais une aide pour s'y soutenir. Plus on marche, plus on acquiert de force. Voilà. Plus on fait de l'exercice, plus on le fera avec aisance, facilement, même avec joie. Plus notre corps s'y adapte. Eh bien, c'est pareil dans le domaine de la grâce. Le prophète nous dit dans un psaume, « Le juste court de vertu en vertu, de grâce en grâce, jusqu'à ce qu'il arrive à la cité céleste. » Voilà. Eh bien, ça devrait être notre cas. Nous devrions courir de vertu en vertu, de grâce en grâce. Et sans cesse, nous devrions progresser. Si la grâce est en nous comme un levain. Mais s'il existe un levain salutaire qui fait fermenter l'âme pour le bien et qui la perfectionne, il en existe un autre, malheureusement, beaucoup trop commun et dont la mauvaise fermentation va infecter l'âme qui le laisse pénétrer en elle. Comme dans les choses d'ici-bas, il y a de mauvaises fermentations. Au lieu de l'améliorer, détruit Eh bien, il en est de même. Il y a du mauvais levain. Comme dit notre Seigneur, gardez-vous du levain des pharisiens. Oui, c'est un mauvais levain. Eh bien, ce mauvais levain, c'est le péché. Oui. Même le péché véniel, c'est un mauvais levain. De même qu'une seule grâce reçue avec fidélité et cultivée avec soin peut devenir le principe de la plus haute perfection, de même, un seul péché véniel auquel on ne fait pas attention, un seul défaut que l'on néglige ou une seule passion que l'on croit ou que l'on veut croire innocente, peut précipiter l'âme dans les plus honteux désordres. Et d'ailleurs, vous savez, les grands pécheurs ne sont jamais devenus de grands pécheurs tout d'un coup. Ça n'a jamais commencé par des excès. Ça a commencé petit à petit. Négligence. Ils ont commencé par se laisser aller à une faute qu'ils ont cru légère. Comme une expression qu'on emploie aujourd'hui, un péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. C'est ce mauvais levain. Eh bien, cela nous guette chaque jour. Il faut veiller à notre âme. Il faut veiller de ne pas laisser entrer de mauvais levain. C'est-à-dire, il ne faut pas garder en nous d'attache au péché véniel. Si nous gardons une attache au péché véniel, eh bien, gardons ce mauvais levain en nous. Et ce mauvais levain ne va pas rester comme ça, à ce niveau-là. Il va progresser. Il va avoir une mauvaise fermentation et petit à petit, il va corrompre l'âme. Il va faire perdre la fleur de l'innocence. Il va enlever la crainte du péché. Oh, c'est pas bien grand-chose. Vous voyez, on n'aura plus la crainte du péché, ce qui est comme une barrière qui nous retenait. Et là, il fait tomber les obstacles les uns après les autres. Et on ira toujours plus avant. Bientôt, elle fera qu'on se complaira dans le péché. Oh, c'est pas grand-chose, tout le monde le fait, et puis c'est agréable. Allez, on arrive à justifier même. Vous voyez? On va même se familiariser, voilà, avec des mauvaises habitudes. Même le remords du péché, véniel va disparaître de notre âme. Alors notre âme va s'occuper non plus des moyens ou ne cherchera plus à plaire à Dieu, mais elle s'occupera des moyens de lui déplaire moins. Voilà. Un peu, elle l'acceptera, elle tolérera de déplaire un peu à Dieu, mais pas trop, pour le début. L'âme ne cherchera plus par quelles actions elle pourra mériter ses grâces, mais elle calculera jusqu'à quel degré elle pourra offenser Dieu sans provoquer ses redoutables vengeances. Sa piété va se refroidir. Les bonnes œuvres vont être interrompues. La tiédeur va s'installer dans cette âme. Et puis, cette âme ne verra même pas le danger dans lequel elle se trouve. Ce n'est pas encore l'abîme, bien sûr, mais elle glisse. Elle glisse sans s'apercevoir vers cet abîme. Et aussi, qu'est-ce qui va s'en suivre? Les grâces seront moins abondantes si elles ne produisent rien. Le bon Dieu en donnera moins. On en sera privé. Les tentations se feront plus violentes. Et même le charme qui environne les tentations va cacher l'horreur des fautes. Et petit à petit, bien l'âme va avoir franchi tant d'obstacles, elle aboutira à offenser et à se couper de Dieu. Il n'y aura plus qu'un pas à faire. Elle aura été habituée, elle le fera facilement. Et ainsi, un seul grain de ce mauvais levain qui a été laissé dans l'âme va finir par l'infecter totalement. Voilà, mes bien chers fidèles, ce que nous pouvons tirer de cette parabole du levain. Alors, il nous faut, bien sûr, nous réveiller et puis veiller de ne pas garder en nous ce mauvais levain qui nous conduit. Si nous voulons éviter de commettre des péchés mortels, il faut déjà lutter au niveau du péché véniel qui nous y conduit, nous affaiblissant en nous corrompant petit à petit, comme le ver orange. Vous voyez un beau chalet, et puis il y a un petit ver, quelques petits cirons qui entrent dedans, et au bout de quelques années, on voit encore le chalet, et puis encore après, on ne le voit plus. Comment il était magnifique, on l'avait vu il n'y a pas longtemps, et il s'est écroulé. Voilà. Les vers ont travaillé, petit à petit. Il paraissait encore, jusqu'au jour où il s'est écroulé. Bien, c'est notre âme. Ce que fait le péché véniel dans notre âme. Il ronge l'âme petit à petit, ou il corrompt l'âme comme le levain pénètre, un mauvais levain pénètre toute la pâte et tout est gâté. Alors, mes bien chers fidèles, eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie, la mère de toute grâce, voilà, de nous obtenir, de donner toutes les meilleures conditions aux grâces du bon Dieu, qui nous en attirera d'autres, qui nous fera progresser et qui nous fera sans cesse croître en sainteté, qui nous mènera même à un haut sublime de sanctification, si nous sachons être fidèles. Demandons aussi à Notre-Dame bien de nous garder éveillés contre tous ces péchés véniels que nous n'en ayons aucune attache. Il faut que nous, de temps en temps, nous fassions un petit inventaire. Est-ce que je n'ai pas une attache à un péché véniel, une chose, une gourmandise, ou bien un mensonge, ou quelque chose, des petites choses. Voilà. Il faut se méfier, ben ça ne restera pas là, ça ira en progressant. Alors on s'étonne après de se voir si mauvais. Ben, on a laissé faire ce mauvais levain. Alors prions les uns pour les autres à l'occasion de ce saint sacrifice de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.